BW. Vue d'Allemagne.
Un des morceaux classiques les plus connus au monde et peut-être au-delà. Saviez-vous que le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven fait partie des morceaux du patrimoine de l'humanité envoyés dans l'espace à la recherche de vie extraterrestre ? Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, on vous propose un voyage, mais dans le passé, sur les traces de Ludwig van Beethoven, né en décembre 1770, il y a donc 250 ans. Et pour nous accompagner sur les pas de Beethoven, nous recevons le musicologue Bernard Fournier, auteur de nombreux ouvrages dont Le génie de Beethoven, paru en 2016. Il est tombé dedans à l'âge de 8 ans et depuis, il ne l'a plus quitté. Pour commencer et se faire une idée du personnage, j'ai demandé à Bernard Fournier de décrire Ludwig van Beethoven.
On ne le connaît que par des portraits qui ne sont pas toujours fidèles, mais ce qu'il dit de lui, par les témoignages qu'on a de... Les gens qui l'ont décrit, c'est que c'était un homme robuste, pas très grand, assez trapu, qui avait une abondante chevelure, qui avait une grande énergie, une grande vigueur. Il avait un regard sombre et puissant.
Malgré cette apparente force de la nature, Beethoven a dû affronter toute sa vie des problèmes de santé. La surdité d'abord, nous y reviendrons, mais aussi des problèmes de foie et d'estomac qui l'ont poursuivi jusqu'à sa mort à l'âge de 56 ans.
Ça l'a conduit en fait à une espèce de philosophie. Dépassement, c'est-à-dire que quelle qu'était la difficulté qu'il a rencontrée, il a pris le taureau par les cornes et il s'est battu pour essayer de survivre et de vaincre les difficultés.
Ludwig van Beethoven naît le 15 ou 16 décembre 1770 à Bonn. Sa maison natale est aujourd'hui un musée. Son père, Johann van Beethoven, est lui-même musicien, maître de chapelle à la cour de l'électeur. Alcoolique notoire, autoritaire, il détecte très tôt les talents de son fils Ludwig. Son influence sur le compositeur a failli être fatale.
Il aurait veillé à minuit quand rentrait ses beuveries pour le mettre au piano parce qu'il voulait faire de son fils un nouveau Mozart. Donc il a vraiment failli d'écouter des tonnes de la musique.
Il a fait son premier concert d'ailleurs à l'âge de 8 ans. Hein. Et son père l'a fait passer pour un enfant plus jeune.
C'est ça, son père mentait sur son âge pour justement le valoriser, lui donner 2 ans de moins. Et Beethoven lui-même, pendant très longtemps, n'a pas su quel âge il avait. Ce problème-là, c'est quelque chose qui l'a marqué. De même que l'a marqué aussi le fait qu'il est le deuxième né d'une famille, il y avait un frère qui est mort et qu'il porte le nom de son frère mort. Et au point de vue psychanalytique, je crois que ça fait quelque chose de très compliqué et ça explique aussi une partie des problèmes qu'il a pu avoir.
Le talent et le caractère rebelle du jeune Beethoven lui permettent de prendre son envol. En 1787, il part tenter sa chance à Vienne. Quelques années plus tard, il devient élève de Joseph Haydn, comme l'avait été Wolfgang Amadeus Mozart avant lui. Mais la relation entre le vieux maître classique et son élève est houleuse. Le jeune musicien reproche au maître sa négligence et Haydn a du mal à gérer le tempérament fougueux de son disciple. Car si Beethoven a du talent et même du génie, il faut aussi reconnaître qu'il a un caractère orageux, voire un grain de folie.
Quand il était jeune à Bonn, il avait un ami qui s'appelait Breuning et la mère de cet ami remarquez souvent que Beethoven était sujet à des raptus. Il était là, tout à fait normal, et puis brusquement, il disparaissait mentalement. Il était ailleurs. De même avec ses amis, il se mettait en colère de venir insensé pour des queues de poire, et puis ensuite, il leur écrivait des lettres amicales, d'une tendresse, d'une affection absolument inouïe. Donc, en l'espace de quelques secondes, de quelques minutes, il pouvait changer totalement de caractère.
Cette dualité de la personnalité de Beethoven, explique encore Bernard Fournier, se traduit dans son œuvre musicale.
De la rupture, de même que son caractère est versatile et qui est toujours en train de passer d'un état de conscience ou de sentiment à un autre. De même, dans sa musique, on passe de paysages expressifs extrêmement différents, de la tendresse à la violence, et sans transition. C'est abrupt, abrupt.
Parmi les œuvres dans lesquelles on peut entendre ces ruptures, il y a par exemple le premier mouvement Allegro con brio du 11e quatuor dit Serioso, dont je vous propose d'écouter un extrait. Alors, il n'y a pas que dans son caractère que Beethoven révèle deux facettes, explique encore Bernard Fournier lorsque je lui demande pourquoi certaines œuvres sont aujourd'hui plus connues que d'autres.
C'est un musicien populaire et un musicien visionnaire. Alors, il y a une partie de ses œuvres qui sont populaires et qui ont assez vite séduit le public et qui aujourd'hui continuent à séduire. Ce sont les œuvres symphoniques, les symphonies, les concertos. Et puis, il y a un Beethoven visionnaire qui est un Beethoven prophète qui a fait évoluer énormément la musique. Il est passé du style classique dans sa première période jusqu'à 1802, un style pré-romantique et même romantique dans la période qui va de 1802 à 1817-18. Et puis au moment où il est dans cette phase de renoncement à lutter contre la surdité, où il accepte son sort, il entre dans une troisième manière, qui est une manière qui véritablement tend la main au XXe siècle. En 25 ans, Beethoven, sur le plan stylistique, traverse deux siècles. Donc il va d'une musique qui ressemble à celle de Mozart et de Haydn, fait beaucoup plus de contraste, et puis ensuite une période romantique, il va jusqu'à une influence sur des compositeurs comme Bartok. Donc on va vraiment jusqu'aux années quasiment 1950 même, presque.
Comme Bernard Fournier l'évoquait à l'instant, il y a un élément central dans la biographie de Beethoven qui détermine aussi son œuvre, c'est sa surdité. Elle a commencé très tôt, vers l'âge de 26 ans, alors que Beethoven était encore plus connu pour ses talents de pianiste que de compositeur. Il la garde secrète jusqu'en 1802.
Quand il a décidé de révéler au monde qu'il était sourd, ce qui était difficile pour un compositeur, parce qu'un compositeur, a priori, ne peut pas être sourd, il a dit « je veux saisir le destin à la gueule ». Et donc par rapport à sa surdité, il est passé du secret au combat. Et ça a été un combat très violent et dans lequel il a dépensé beaucoup d'énergie. Dans les années 1817, donc il avait 47 ans à ce moment-là, il n'entendait plus rien du tout à tel point que d'une part, pour parler, il utilisait des cordes acoustiques qui étaient près de son oreille. Et puis au bout d'un certain temps, dès 1818, il n'a plus communiqué avec autrui que par des cahiers de conversation. C'est-à-dire que lui parlait, mais les gens qui voulaient lui répondre étaient obligés d'écrire sur un carnet. Ils ont été publiés, alors il y a des tas de cahiers de conversation de Beethoven qui sont assez étonnants, parce que ce sont toujours les autres qui parlent, et il faut deviner ce qu'il a dit à travers les réponses qu'on peut lire.
Malgré son handicap, Beethoven tient à diriger ses œuvres lui-même, mais il arrive un moment où ce n'est plus possible. Quand il veut changer de tempo, mais que l'orchestre ne suit pas, il se retrouve à gesticuler sur des passages lents et inversement, il n'est pas au rendez-vous quand l'orchestre s'anime. Bientôt, Beethoven doit laisser la direction de ses œuvres à d'autres chefs, et c'est comme ça qu'en 1824, il a failli passer à côté de l'accueil triomphal de sa 9e symphonie, raconte Bernard Fournier.
Beethoven était assis à côté du chef d'orchestre, parce qu'il essayait de regarder un peu ce qui se passait. À la fin de l'œuvre, la salle était en délire, lui il n'entendait rien. Il a fallu que l'altiste solo vienne le prendre par la main, le lève et le retourne vers la salle pour qu'il voie la foule en délire. Il n'entendait rien.
La surdité n'est pas le seul problème du compositeur. Beethoven est également malheureux en amour, et ce, toute sa vie. Il traduit ses états d'âme dans des lettres magnifiques, comme la lettre à l'immortel bien-aimé, datée de 1812, mais retrouvée après sa mort. On n'a jamais su avec certitude à quelle femme cette lettre était adressée. Peut-être était-ce Joséphine Brunswick, à laquelle Beethoven a dédié la sonate au clair de lune, un morceau d'une infinie délicatesse qui reflète bien la douceur qu'avait aussi en lui le compositeur. C'est également en 1812 que Beethoven compose sa 7e symphonie dans le contexte des guerres napoléoniennes. Le deuxième mouvement est bâti sur une même variation qui commence sur une marche grave et solennelle, presque funèbre, avant d'emmener l'orchestre crescendo vers les aigus. Encore une œuvre qui ne laisse pas indifférent ceux qui l'écoutent, ni ceux qui la jouent ou la dirigent, comme en témoigne le chef d'orchestre François-Xavier Roth, directeur musical de la ville de Cologne.
Avec Beethoven, c'est vraiment particulier parce que quand on joue sa musique, on a l'impression qu'il veut nous dire quelque chose. On n'a pas ça avec d'autres compositeurs. Souvent, c'est très fatigant de jouer sa musique parce qu'il nous émeut, nous fait nous poser des questions sur ce que nous sommes et les raisons pour lesquelles on fait de la musique.
Pour Bernard Fournier, c'est l'idéal de fraternité qui constitue le fil rouge de l'œuvre de Beethoven, qui a surtout contribué à rendre le compositeur immortel.
La notion de fraternité est quelque chose d'absolument essentiel qu'on trouve dans toutes ces grandes œuvres chorales et symphoniques, comme son opéra Fidelio, la Messe Solemnis, la 9e symphonie, mais dès sa période de Bonn, la cantate qu'il a écrite en 1790 pour la mort de Joseph II, qui était un empereur qu'il admirait beaucoup parce qu'il avait lutté contre le despotisme. Pour lui, Joseph II, c'était un héros de la liberté. Et donc, dans toutes ces œuvres-là, il y a un sentiment de fraternité et de générosité humaine qui s'exprime de manière extrêmement claire. Indépendamment de ses qualités de musicien et des révolutions musicales qu'il a apportées, c'est une des raisons pour lesquelles Beethoven continue à nous parler aujourd'hui. Parce que ce qu'il nous dit, c'est universel et atemporel.
Ce n'est donc pas un hasard si 250 ans après sa naissance, Beethoven est toujours au panthéon des musiciens, au même titre que Bach ou Mozart. Ses œuvres ont traversé les époques et les continents. Elles ont été reprises, adaptées, transformées. La plus emblématique est sans doute la 9e symphonie. Au moment de sa création en 1824, elle constituait déjà un jalon dans l'histoire de la musique, car ce fut la toute première symphonie vocale. La 9e a inspiré tous les compositeurs de symphonies après Beethoven, et sa partition est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Connaît son final, l'ode à la joie, d'après un texte de Schiller, et depuis 1971, l'hymne de l'Union européenne. Ce texte célèbre la fraternité et l'unité. Alle Menschen werden Brüder, tous les hommes deviennent frères. un message d'espoir, selon Nike Wagner. Elle est directrice du Festival Beethoven de Bonn depuis 2014 et c'est aussi l'arrière-petite-fille du compositeur Richard Wagner, grand admirateur de Beethoven.
Bien sûr, la 9e est une œuvre centrale de l'histoire de la musique, mais l'hymne n'est pas un hymne révolutionnaire. Il a un sens positif, optimiste. On ne peut pas le considérer comme une prophétie accomplie. C'est plutôt un espoir.
Pour Nike Wagner, il serait exagéré de faire de Beethoven un symbole d'une Europe unie dans laquelle les gens de toutes les nations se donneraient la main. Mais pour le chef d'orchestre François-Xavier Roth, c'est exactement le contraire.
Aujourd'hui, on se bat pour savoir ce que doit être notre Europe. Je pense que ce n'est pas un hasard que les gens aient besoin de ce personnage comme point de rencontre de notre culture commune. Et je pense que la célébration de Beethoven est un signe qu'on a besoin de davantage d'Europe.
Ist es ein Zeichen, dass wir brauchen mehr Europa?
On le voit, chacun interprète la musique de Beethoven selon ses propres aspirations, raison pour laquelle, sans doute, la 9e symphonie a été célébrée à la fois par Staline, Hitler ou encore les dirigeantes de l'ex-Allemagne de l'Est, mais aussi par François Mitterrand lors de son élection en 1981. Selon Bernard Fournier, cela ne joue aucun rôle.
L'Union européenne, c'était un choix parce que c'est non seulement l'Europe, mais c'est l'universalité du message beethovenien. L'hymne à la joie, c'est vraiment une des pierres les plus précieuses de notre patrimoine mondial. Il devrait être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ce serait de toute urgence à faire.
La 9e symphonie était à l'honneur de l'année Beethoven, une année qui ne s'est pas déroulée comme prévu en raison de la pandémie de coronavirus. Mais le slogan du festival Beethoven 2021 donne de l'espoir, Auferstehen, ja Auferstehen, qu'on pourrait traduire par ressusciter ou se relever. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à Bernard Fournier d'avoir partagé avec nous sa passion. Merci aussi à Gabi Reucher pour les sons de François-Xavier Roth et Nike Wagner. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Alors si ce magazine vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Il est disponible, comme tous les autres numéros de Vue d'Allemagne, dans la médiathèque de la DW. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon que vous retrouverez à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !